Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous retournons au Cantique des Cantiques. Vous vous souvenez du rendez-vous? Alors, nous allons ouvrir ce fameux livre de la Bible qui nous parle de l'amour. Et nous allons, entamer le chapitre 4. Alors, j'aimerais faire un petit récapitulatif pour mémoire. Nous sommes déjà rendus à la 5e étude. Ça va vite, hein, le temps passe. La première étude, notre premier rendez-vous, était titré « L'assurance de l'amour ». Le deuxième rendez-vous, c'était « La bannière de l'amour ». Troisième étude, « Quand l'amour s'éveille ». La dernière fois que nous nous sommes revus, c'était donc quatrième, « Un jardin dans le désert ». Et aujourd'hui, nous allons ouvrir une nouvelle page, « Des mots d'amour ». Voilà. C'est vraiment le livre qui met en évidence l'amour de Dieu pour les hommes et l'amour des hommes pour Dieu, l'amour des hommes entre eux. Alors, des mots d'amour. Dans cette lecture, nous allons le découvrir. Ou peut-être présenter d'une autre manière quand l'amour se dit, quand l'amour se manifeste en parole. Parce que il y a quelque chose qui est important, c'est vrai que donné par des faits, des gestes et des actions que l'on aime, c'est important. Mais quelquefois, nous avons besoin d'entendre, de savoir qu'on nous aime. Et ça se dit. Voilà. Le mot certainement le plus connu, le plus couru, alors faut qu'il soit sincère, c'est de dire à quelqu'un « je t'aime ». Voilà. Et c'est précisément l'objet de ce quatrième chapitre que nous allons ouvrir. L'amour se dit, et il se dit dans des paroles sublimes, parce que ces paroles sont des paroles qui viennent du ciel, sont des paroles de Dieu. Et si nous avons quelque imitation à prendre, allons les chercher dans la Bible, qui est la parole de Dieu et la volonté de Dieu, c'est que finalement, sa créature puisse manifester ce même amour les uns avec les autres. « Je vous donne un commandement nouveau, nous dit Jésus, aimez-vous les uns les autres. » Donc des paroles sublimes pour dire que l'on aime et qui l'on aime. Ça, c'est important. Alors, nous allons faire une reprise à la fois précédente où le sujet, c'était un jardin dans le désert. Nous avions discuté de pas mal de choses et nous allons voir que dans cette fois-ci, ce jardin dans le désert, même si c'est dans le désert, ce n'est pas pour ça qu'il est stérile. C'est pas pour ça que le mot désert, quelquefois, nous le prenons comme quelque chose, une solitude, comme quelque chose de terrible et d'effroyable, mais un jardin de Dieu dans le désert, c'est là où il pousse vraiment des choses extraordinaires, où poussent des fleurs d'excellence, et entre autres, l'amour. Voilà. Et si vous avez compris un peu ce que ça veut dire, nous allons le développer d'ici quelques instants, c'est pas toujours dans la facilité. Ce n'est pas toujours où tout nous semble propice que l'amour se développe. Et c'est parfois justement dans l'aridité, dans le combat, dans les luttes, où on apprend vraiment à aimer. Nous sommes dans une société où le mot amour aujourd'hui est galvaudé. Il est utilisé à tort et à travers, on en fait n'importe quoi et on le met dans toutes les sauces, excusez-moi l'expression. Mais on sait ce que vaut cet amour-là parce que c'est un... s'aperçoit que quelque part il n'a pas de valeur, il a perdu sa valeur, il est même dénaturé. Alors, on va voir un petit peu ce que sont ces fleurs par excellence de l'amour, précisément dans le désert. C'est aimer dans l'épreuve. C'est aimer, en quelque sorte, sans jamais renoncer à aimer dans la difficulté. C'est parce que c'est difficile que l'on s'attrache. C'est parce que c'est difficile que l'on tient sa parole, que l'on se bat pour garder finalement notre honneur, que un oui est un oui, un non est un non. Voilà, ça je parle d'une manière tout à fait humaine. Mais quand on lit la Bible, on s'aperçoit que Dieu, quand il a dit oui, c'est oui. Et il va jusqu'au bout. Jusqu'à mourir. Jusqu'à la croix. Jusqu'à donner ce qu'il y a de plus précieux. Parce que le verset le plus connu de la Bible, c'est quand même Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Et on pourrait s'attendre qu'il a tant aimé le monde parce que le monde a été gentil avec Dieu, parce que le monde est bien avec Dieu, mais c'est justement précisément le contraire. C'est que Dieu, quand il regarde ce monde, eh bien, il voit un désert de corruption, un désert de mensonge, un désert de haine, un désert de guerre, de sang et tout ce que vous voudrez. Et pourtant, Dieu a continué à aimer, eh bien, le monde tel qu'il est. C'est persévérer, et c'est bien là que l'amour se renforce lorsqu'il est mis à l'épreuve. Lorsqu'il est poussé quelquefois jusqu'à l'extrême, il se renforce, et c'est là où on l'a le plus besoin, le plus grand besoin d'entendre les mots qui soutiennent les sentiments de nos cœurs, quand dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le livre des Cantiques des Cantiques, ou la vie de Jésus, eh bien, on entend des paroles d'amour, des mots d'amour. Alors il y a des livres comme ça qui ont été écrits, je pense à Osée, par exemple, le prophète Osée, le Cantique des Cantiques, certains psaumes, où Dieu véritablement, eh bien, est épris, il est amoureux de sa créature, il est amoureux de chacun d'entre nous, il aime. Alors, on a besoin d'entendre quelquefois, lorsque nous passons par l'épreuve, que quelqu'un, père ou mère, ou des amis, ou particulièrement, eh bien, celui ou celle qui nous accompagne dans la vie, nous dise « c'est « je t'aime ». Ça, ça fait du bien. Si c'est le contraire, je te hais. C'est terrible, c'est une blessure. C'est une blessure terrible. C'est un assassinat. C'est un crime. Mais quand on dit à quelqu'un qui est dans l'épreuve, tu sais, avec beaucoup de tendresse, tu sais, je t'aime, on t'aime. Alors, vous savez, ça vous redonne l'envie d'aller plus loin, naturellement. Voilà, sentiment de l'amour. Alors, on va suivre le même parallélisme, en quelque sorte. On avait évoqué dans les fois précédentes, c'est encore l'introduction, mais je le rappelle, Salomon, eh bien, c'est le fiancé, c'est l'époux. Présenté comme ça dans le livre des Cantiques, c'est le roi terrestre. Et il a comme équivalent, eh bien, Christ, le roi céleste, qui a donné sa vie pour sauver les hommes. Et puis, cette belle jeune fille qui s'appelle Sulamite, pauvre jeune fille, mais avec beaucoup de qualités, eh bien, elle est la fiancée, elle est l'épouse, enfin elle est la fiancée, elle va devenir l'épouse, et c'est l'image de l'Église. Alors on reste dans cette pensée, hein, je le rappelle à chaque fois parce que c'est quand même important de nous resituer toujours dans le contexte et l'esprit dans lequel ce livre des Cantiques a été écrit. Alors écoutez, on va prendre le chapitre 4, on va lire les 7 premiers versets, et j'ai ceci devant les yeux. « Que tu es belle, mon amie, et que tu es belle !» Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme des troupeaux de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir, toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Et ton cou et comme la tour de David bâtie pour être un arsenal, 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paisse au milieu des lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon amie, et il n'y a point en toi de défaut. Quand j'ai médité ce texte, je me dis comment une jeune fille d'aujourd'hui ou une jeune femme entendrait ces paroles. Écoutez, ouah, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Je ne sais pas si ça lui ferait plaisir. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Attendez un petit peu. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Alors assurément, Il y a quelque chose de tout à fait particulier que notre esprit occidental a du mal à comprendre. Je ne sais pas si un jeune homme pourrait séduire une jeune fille avec ce genre de discours. Ça pourrait peut-être mal se terminer, hein, à moins que elle soit emportée, enivrée d'amour, et puis que là, elle n'entende plus trop les paroles, elle détaille des paroles. Mais bon, toujours est-il que c'est quand même, il faut bien le reconnaître, quelque chose de particulier, et je vais vous donner les raisons. Nous voyons que le fiancé, l'époux, Salomon, s'adresse à Sulamite avec des expressions d'amour très oriental. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Nous, on se dit, mais oh là là, c'est quelque chose, parce qu'on est beaucoup plus avec un esprit cartésien, rationnel, et puis on rentre pas trop dans les fioritures. Voilà. Mais dans ce monde-là, le monde de l'Antiquité, c'est des petites fleurs, il y a quand même pas mal de choses, mais ça reste très beau. Troupeau de chèvres, brebis tondues, moitié de grenade, et pourquoi pas une grenade entière d'ailleurs, et puis une tour, et puis tout le reste. Non mais, c'est très intéressant, vous allez voir. C'est très intéressant. Il lui dit comment il voit sa fiancée, sa future épouse, et surtout comment il l'aime. Alors il trouve les mots. Et je pense que ça devait fonctionner naturellement à cette époque. La comparaison est pittoresque et pleine de fraîcheur. Et c'est ça ce qui est beau dans le livre des Cantiques. Et puisque l'exemple nous est donné à travers ces métaphores, alors on va partager, si vous voulez, quelques grâces morales et quelques caractères spirituels que Christ voit, eh bien, tout simplement dans son épouse, dans l'Église. Ce que nous retrouvons et ce qui est explicité finalement à travers tout le message de l'Évangile, tant dans l'Évangile qu'à travers, eh bien, les Épîtres également, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Donc il y a toujours naturellement un report automatique entre le livre des Cantiques des Cantiques et le Nouveau Testament, et particulièrement ces deux personnages principaux, Christ et l'Église. Alors il parle de ses yeux. Les yeux, dans l'imagination et dans cette conception orientale, ce sont les fenêtres de l'âme, en quelque sorte. Oui. Et on le sait tous, c'est que un regard par lui-même parle. Oui. Il y a des gens qui ne disent rien, mais on sait très bien quand ils regardent, ou quand on leur fait face, soit ils expriment la tristesse à travers le regard, un regard éteint, ou la joie, ou la surprise, ou l'émerveillement, ou la colère, ou la provocation, ou l'indignation. Sans un mot, hein. Et quelquefois, c'est même pas la peine de rajouter parce que, je le dis, les yeux sont la fenêtre de l'âme. Alors il regarde sa fiancée, Tsunamite, et là, il lui parle de ses yeux. Et il y découvre que derrière les yeux de Tsunamite, ou derrière les yeux de l'Église, si vous voulez, en faisant le report immédiatement, eh bien, il y a son cœur et la nature de son cœur. On l'a dit, la tristesse, c'est le cœur. La joie, c'est le cœur. Et toutes sortes de choses semblables. Et il dira, mais tes yeux sont comme des colombes. Alors, nous savons très bien, et nous avons déjà discuté sur le sujet, c'est le symbole de la paix. La colombe est le symbole de ce qui est la paix, mais également de la pureté, le regard pur. On considère que Tsunamite est une jeune fille, elle est pure. Et c'est uni à la modestie, parce que Tsunamite porte un voile, elle se couvre, à la manière finalement de l'Orient. Donc la modestie, l'humilité, tout cela, c'est l'explication que nous pouvons donner. Alors ensuite, il en vient à ses cheveux qui nous a fait sourire il y a quelques instants, puisqu'ils sont comparés aux poils noirs des chèvres. Et vous allez me dire que dans le commentaire, c'est difficile de trouver une réponse, mais certains ont découvert que derrière justement cette comparaison à l'oriental, il y avait l'image de la soumission. Mais une soumission dans l'amour, pas une soumission forcée. Parce que il faut pas se tromper, quand il nous est parlé de soumission de la femme à l'homme, eh bien, elle est soumise en raison de l'amour de l'homme pour elle, et dans un respect, et tout simplement dans des sentiments qui sont des sentiments les plus nobles et les plus beaux. C'est pas parce que tu es ma femme, eh bien, tu marches parce que je suis l'homme. Ouais. Et on s'est souvent mépris par rapport à ça, ce qui a donné quelquefois un rejet de la Bible en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors on peut comprendre qu'il faut donner une bonne interprétation. Donc c'est l'image de cette soumission dans l'amour et de l'obéissance, la chevelure féminine qui est le contraire de l'arrogance des chevelures de la prostituée. Où il n'y a plus de cheveux d'ailleurs. Voilà, où il n'y a plus de cheveux. Et la Bible nous en parle à travers l'épître de Pierre au chapitre 3, et je ne lis pas, mais au chapitre 3 de Pierre, il nous est parlé de la parure incorruptible, la parure incorruptible de la femme de foi et vertueuse. Et il prendra comme exemple Sarai, si vous aimez mieux, la femme d'Abraham. Et il y a toute une petite réflexion autour de cela, à travers, cette modestie, à travers cette soumission, à travers cette obéissance, mais qui ne peut être que soumission, qui ne peut être qu'obéissance, et qui ne peut être véritablement que d'une grande valeur, la parure incorruptible de la femme, que lorsqu'il y a de l'amour. On ne peut pas départir les choses, c'est pas possible. Ensuite, il en vient aux dents, qui sont comparées à des brebis qui montent du lavoir. C'est-à-dire, en quelque sorte, si nous voulons expliquer les choses, qui conservent la propreté de l'âme. Oui. Ces brebis qui montent du lavoir, elles se sont désaltérées, voilà, tout simplement, et qui abreuvent cette brebis et qui l'entretient. Et il nous est parlé que toutes les brebis dans ce texte, eh bien, n'ont pas un bébé ou un enfant ou un agneau, mais elles en ont deux, ce sont des jumeaux, qui nous y évoquent tout simplement la fécondité surabondante. C'est pas de mettre au monde, mais c'est de mettre au monde abondamment. Et ça, c'est aussi, eh bien, la manière dont Salomon compare Sunamit, et c'est ainsi que Christ compare l'Église dans sa soumission à l'autorité, à son autorité de Christ, son obéissance à l'autorité de Christ, son humilité à travers, cette propreté, nous pourrions dire, morale, spirituelle, et puis cette fécondité. Voilà déjà une perspective qui nous est donnée. Tes lèvres comparées au fil écarlate qui traduisent des paroles saines, saintes et honnêtes. C'est Paul qui dira dans l'épître aux Éphésiens, il dira « Mais qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole ». On avait fait tout un message sur la question il y a quelques mois de cela. Parce que finalement, c'est comme dit Jésus dans Matthieu chapitre 12, il dira « Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Et s'il y a quelque chose qui doit caractériser l'Église, c'est la manière dont elle parle. Grossièreté, vulgarité n'a pas lieu d'être. Et nous nous apercevons que ça vient du cœur. Et quand un cœur est converti, eh bien son langage est châtié, hein. C'est pas que nous avons besoin de prendre un langage aristocratique, parce que là, ça n'a pas lieu d'être, mais en tous les cas, au moins d'avoir un parler qui est normal, et un parler qui édifie, qui ne démolit pas, mais qui édifie. C'est de l'abondance de la bouche que le cœur parle. Tes joues, ta joue, qui est l'image finalement de cette sincérité, je vais vous dire pourquoi, cette sincérité et la modestie, parce que il y a derrière tout cela l'humilité, et la vérité des émotions du cœur qui n'est pas surfait, qui n'est pas fait et qui n'est pas superficiel. Et vous aurez remarqué que dans la nature humaine, rougir trahit la noblesse de nos sentiments. Que ce soit le sentiment de noblesse, le sentiment, l'émotion de ce qui est beau, ce qui est bien. Quelquefois, eh bien, nous pouvons avoir le visage en pourpresse, c'est aussi un langage qui parle comme les yeux. Et c'est aussi la honte. Quand on a honte, on rougit. Enfin, la plupart du temps. Donc, les choses sont mises en place. C'est pour ça que dans ce déroulé, nous pourrions dire, dans cette présentation, quand Salomon est en train de faire la cour, on peut dire ça à sa fiancée qui va devenir son épouse. Alors, il lui dit toutes ces choses à la manière, naturellement, qu'on a l'habitude en Orient. Mais pour nous, reporter finalement, eh bien, par sous le regard de Christ, eh bien, c'est ça aussi l'Église. Oui, c'est ça l'Église. Rougir. Rougir de cette sainte et cette saine émotion, et non pas de son contraire. Ton cou, comme là des tours de David, où les boucliers des héros sont accrochés en trophée. Pourquoi les choses sont-elles dites? De Salomon à Sunamit. Parce que l'Église est belle. Ouais. L'Église est belle en raison d'une chose, par ses victoires remportées par la foi, comme une conquête, comme une lutte de haute main, comme une guerre qui a été gagnée, où nous avons triomphé de l'ennemi, comme les tours de David, bouclier des héros, et c'est véritablement notre foi. L'Église, donc, est rendue magnifique. Elle est somptueuse aux yeux de Christ en raison de ses victoires qu'elle a remportées parce qu'elle a cru à la parole, parce qu'elle croit dans les promesses de son de son Sauveur et de son Seigneur, et il l'honore et la rend triomphante. On verra ça de l'autre côté lorsque l'Église sera glorifiée. Mais déjà, elle doit en avoir déjà le comportement, la nature, et nous n'avons pas à faire une Église geignante, lamentable, couchée sur le flanc, mais une Église qui croit encore et qui croit toujours et qui croira encore toujours que celui qui l'a sauvée, celui qui est son Seigneur, eh bien la conduira toujours, même ici-bas, à toutes les victoires. Et il l'honore, et nous honorons, et l'Église honore son Sauveur, parce que ses victoires, elles nous appartiennent. On y croit, on n'y croit pas, tout simplement. Tes saints, qui typifient les affections, naturellement, celles d'un amour fidèle et tendre, oui, la tendresse, comme Jean s'est pensé sur le sein, parce que c'est le mot, sur le sein de Jésus au moment de la dernière Pâque, de la Sainte Cène. Quelle image de tendresse, cette image de l'affection. Résultat, le verset 7, « Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a pas en toi de défaut. » C'est faux, c'est beau, hein. Maintenant, mes frères, vous pouvez peut-être le dire. Il n'y a pas en toi de défaut. Eh oui, c'est beau, hein. Mais c'est exactement ce que Dieu dit à travers Jésus, dans son regard, le regard de Christ sur son Église. Pourtant, nous dirions, Seigneur, dis donc, il s'en passe des choses dans l'Église. Bouah, tu dois pas bien voir, Seigneur. Mais il s'en passe. Eh bien, vous savez, moi, je crois que Dieu ne regarde pas tant à nos défauts et à nos erreurs et à nos manquements et à tout ce qu'il peut y avoir d'humain, de terrestre et de charnel et quelquefois tellement bas. Il regarde à ce que il s'est proposé à ce que nous devenions. Oui. Pour que nous devenions véritablement comme lui l'a décidé que nous soyons. Il ne nous regarde pas comme si nous étions finalement ce que nous sommes aujourd'hui, mais il nous voit déjà finis. Et il dit, tu es belle, mon ami. Parce qu'autrement, il nous aurait pas sauvés. Autrement, il serait pas venu pour nous sauver. Le but de chacun d'entre nous, c'est de nous amener à la perfection, à sa perfection et à sa ressemblance. Eh oui, c'est ça. Paul le dira avec des mots formidables. Dans l'épître aux Éphésiens, il dira ceci quand il décrira l'Église. Et il en tirera cette conclusion évidente. Et je voudrais reprendre le texte parce que nous l'avons déjà lu dans notre étude déjà de Cantique des Cantiques, mais écoutez ce qu'il est dit. 5, verset 25, Marie, c'est toujours le même rapport, hein, c'est extraordinaire, hein. Christ et l'Église, Marie et femme, c'est pour dire que le mariage, c'est pour dire que la vision que Dieu a, si le correspondant, finalement, eh bien, pour nous sur la terre, et l'imitation, c'est véritablement, eh bien, ce qui se passe au ciel, l'amour de Christ pour son Église, écoutez, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, c'est le modèle, c'est la référence. Et il s'est livré lui-même pour elle, parce que l'homme se donne, mais bien sûr la femme aussi, naturellement, dans la mesure où il y a de l'amour, afin de la sanctifier, dira-t-il, en la purifiant, on parlait de l'abreuvoir des brebis tout à l'heure, hein, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. C'est quand nous sommes imprégnés de la parole de Dieu, que nous sommes enrichis de cette parole de Dieu, que nous pouvons avancer, c'est vrai, individuellement, que nous pouvons avancer en couple, et que nous pouvons avancer en famille, que nous pouvons avancer en Église, parce que c'est la grande famille élargie, ça. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, vous vous rendez compte, sans tache, ni ride, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vieilli, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Quelle perspective, quelle ambition de notre Dieu pour chacun d'entre nous. Alors nous avons la vision d'en bas. Lui, il a la vision d'en haut. Faisons-lui confiance. Cette Église, elle n'est pas parfaite. Elle est simplement perfectible. Mais comme nous avons quelqu'un qui a vaincu toutes les carences et tout ce qu'il peut y avoir de corruption, de péché, de mal, de mort et tout cela, alors on peut le suivre. On peut le suivre, on peut lui faire confiance. On va un peu plus loin. Il est dit... Et c'est toujours Salomon, c'est le roi terrestre. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban, regarde du sommet de la Mana, du sommet de Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. On l'avait déjà vu la fois précédente, Tsunamite, et pour un temps au désert. Un désert qui n'est pas aussi stérile que l'image pourrait nous laisser. Et c'est à ce moment-là que son époux l'appelle à s'élever sur les sommets et à contempler, à regarder. Et il l'appelle, il lui dit « regarde des sommets ». Voilà, t'es dans le désert, mais monte et regarde des sommets. Et nous voyons que l'Église reçoit la même invitation à, elle est appelée à chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Comprenez le sens? Le Sénir, l'Amana, l'Hermon, la plus grande montagne de cette région de Palestine, aux neiges éternelles, eh bien nous sommes appelés nous-mêmes, toujours par cette transposition Cantique des Cantiques, Nouveau Testament, Christ, l'Église, eh bien, à aspirer aux choses en haut. Monte! Une Église qui ne monte pas, c'est une Église qui stagne, hein, ou c'est une Église qui descend. Alors il appartient naturellement aux serviteurs de Dieu de tout faire pour que véritablement l'Église grandisse et qu'elle puisse véritablement, eh bien là, être confortée dans sa position, parce que si Christ est assis à la droite de Dieu, il nous est dit également parallèlement, et c'est Paul qui l'écrira, Paul savait des choses, hein. Oh, c'est incroyable ce qu'il pouvait savoir, et les révélations qu'il avait, il dira, mais vous aussi, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Vous le savez? Oui. Nous sommes dans un corps sur cette terre, mais notre identité morale et spirituelle, notre identité spirituelle, j'insiste, est déjà dans les lieux célestes à partir du moment où nous nous sommes convertis et que nous avons répondu oui au Seigneur. Ouais. Alors on est bien terre à terre, hein. Trop malheureusement. Mais toujours est-il que notre identité de chacun d'entre nous, elle est déjà là-haut. Hein. Alors les choses d'en haut, aspire aux choses d'en haut, monte sur les sommets. Et là, quand on est au sommet, on peut voir beaucoup plus de choses que quand on est dans la vallée. C'est logique. Pour nous chrétiens, la terre peut offrir parfois les plus beaux sites enchanteurs. Quand on va se promener dans les montagnes... Quand on complante les merveilles de Dieu, on se dit, mais qu'est-ce que nous sommes? Nous en parlions dernièrement, comme de petites fourmis, hein, quand on voit ces sommets, quand on voit cette, la majesté de ces massifs montagneux, etc. C'est extraordinaire. Il y a des sites enchanteurs sur la terre. Le Liban, qui est un beau pays. L'Hermon, qui est une belle montagne. Avec peut-être cette tentation, ou plutôt cette envie de s'y installer confortablement en disant « Mais c'est bien sur Terre, finalement. Qu'est-ce qu'on est bien ? » Ouais, quand même. Bon, il y a peut-être des problèmes, mais à côté de ça, il y a des choses avantageuses. D'y attacher notre cœur, mais attention, les dangers se dissimulent et il y a des pièges inattendus dans lesquels nous avons besoin de faire très attention de ne pas tomber. Oui, des pièges inattendus dans ce qu'il y a de plus beau et de plus fascinant ici-bas. Nous sommes prévenus, en tant que chrétiens, de nous attacher aux choses d'en haut et de ne pas faire de notre vie uniquement les choses de la terre. Parce que sur la terre, ces pièges inattendus, il nous est dit dans le texte, il y a le lion et sa tanière et le léopard rôde. Ça vous dit rien, ça, le lion? Quand il nous est dit que le lion... que le diable est un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il va pas nous dévorer au ciel, hein, il pourra plus rien faire, mais sur la terre, il va pas gêner. Hein. Résistez-lui avec une foi ferme. Le léopard, c'est un animal véloce. Il court et il nous rattrape. Hein. Eh bien, vous savez que l'adversaire aussi, il est capable de nous rattraper, même si nous courons vite. Hein, parce qu'il est plus malin que nous. C'est pour ça que dans les choses les plus belles, méfions-nous, ça ne reste que la terre. Faisons attention de ne pas nous y conforter ou de trouver cela tellement confortable qu'on va s'endormir spirituellement. Nous avons un bel exemple, c'est l'exemple d'Abraham, le père des croyants, qui regardait la plaine d'en haut, qui regardait la plaine du haut de la montagne dans laquelle il était resté, tout simplement, tandis que Lot, connaissait dans Genèse naturellement, contemplait Sodome comme un jardin de l'Éternel, alors il y est descendu, il s'y installait, et finalement il a tout perdu. Parce qu'il n'est pas dit que Sodome c'était le jardin de l'Éternel. Sodome était comme le jardin de l'Éternel. Il y a bien des choses qui font illusion, même aux yeux des chrétiens, dans les sentiments et dans le cœur des chrétiens, qui paraissent belles, mais qui quelque part comportent des lions et des léopards. Ou des petits renards, si vous aimez mieux. Hein, on vous a raconté l'histoire. Soyons plutôt du côté d'Abraham, qui était dans ces régions élevées dans sa montagne, et qui, lui, comptait sur Dieu, que Lot, qui comptait sur lui-même et ses efforts, il est descendu, il a tout perdu. Parce que n'oublions pas que nous sommes que des voyageurs et des étrangers sur la terre. L'Église est de passage. Elle n'est pas là pour s'y installer. Elle est là pour remplir une mission, mais elle n'est pas là pour s'y installer. Même si nous bénissons le Seigneur de nous donner tout ce qui contribue à la vie et à la vie matérielle, et nous donner d'être des gens heureux quand même. Bénissons-le. Et ne jouons pas une triste pitié des allures de dévotion en disant « je me prive de tout, ceci et cela ». Bénissons le Seigneur de ce qu'il nous a donné. Parce que c'est ça ce qui plaît à Dieu. Quand vous prenez votre nourriture, eh bien rendez grâce. C'est ce que nous dit Paul. Bénissez le Seigneur et soyez heureux d'être ce que vous êtes et ce que vous avez. Cherchez pas à en avoir davantage. Parce que si vous cherchez à en avoir davantage, vous en aurez toujours moins. Si vous faites confiance au Seigneur, il vous en donnera toujours plus. C'est ça, hein. Il y a une logique qui est derrière tout ça. Alors l'avertissement reste d'actualité. Méfiez-vous aux lions qui ont leur tanière et puis les léopards. Alors, il est dit un peu plus loin, « Viens avec moi, regarde du sommet !» Et puis, il y a ces... Alors là, c'est des paroles d'amour, hein, on peut dire, c'est un peu le sujet de ce soir. Il nous est dit, « Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. » On avait parlé des yeux tout à l'heure. « Par l'un des colliers de ton cou. » On en avait parlé dans la première étude, des colliers. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin. Parce qu'il y a les deux, une ivresse dans l'amour et une ivresse également dans le vin. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Le lait et le miel, vous connaissez le pays de Canaan, hein, ça nous rappelle quelque chose. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Peut-être à cause des cèdres du Liban, hein. C'est un arbre majestueux, c'est un arbre royal. Parole enivrante de l'amour, hein. Charme des mots à travers tout cela. Maintenant, je vais aller plus loin. L'époux imagine sa bien-aimée, elle est pour lui un jardin splendide. La France est un pays où il y a des beaux jardins, c'est vrai. Hein. Bon, il y a d'autres pays, en Angleterre, on sait faire aussi un des beaux jardins et... Mais de par le monde, il y a quand même, si vous allez dans la vallée de la Loire, on appelle ça le jardin de la France, hein, la Touraine et puis tout cela. Je suis pas peu fier parce que je suis de là-bas, mais bon, je passe. Hein. Mais toujours est-il que quand on voit les jardins qui entourent les châteaux, et voilà, c'est toujours quelque chose. Alors justement, eh bien, comme nous le disions, il va la comparer à un jardin et il va lui dire ceci. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et la cinnamone, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, avec tous les principaux aromates. La Bible, vous l'avez remarqué, est remplie de comparaisons qui évoquent l'idée de jardin, à commencer par celui des origines, jardin d'Éden. Ouais. Qui, tout simplement, eh bien, ce mot jardin est un mot tiré du persan paradis. Voilà. Paradis terrestre. Hein, on peut dire ça comme ça. Ensuite, plus loin dans la Bible, il nous est toujours donné cette comparaison parce que la nation d'Israël était comparée par Dieu, dont Dieu lui-même dira « Quelle est une vigne sur un coteau fertile ?» Le pays de Canaan où coule le lait et le miel, coteau fertile, avec tous les soins que l'on donne, car le vigneron apporte à sa vigne pour qu'il fasse le plus beau et le meilleur des vins. Voilà. Puis Jésus compare à son tour le monde comme le champ de Dieu. Vigne, jardin, d'Éden, le champ de Dieu, où le blé est mélangé avec l'ivraie. Ah, voilà l'accident. Le jardin d'Éden, la vigne de l'Éternel, ou le champ de Dieu, ont eu des fortunes souvent attristante pour le cœur de Dieu. Jardin d'Éden, là où l'homme a sombré. L'espérance de cette vigne de l'Éternel, où véritablement Israël a porté un mauvais fruit. Et puis, le champ de Dieu, dans cette image que nous avons dans le livre l'Évangile de Matthieu, où là de nuit un ennemi est venu, il a semé de livrer parmi le bon grain. Au départ, dans l'Éden, tout était bon. Israël avait été fait pour que ça soit bon. Et puis dans le jardin de Dieu, eh bien, des intrus sont venus pour jeter le mélange, la corruption, l'ivraie, tout simplement. Paul reprendra l'image en affirmant que l'Église, donc, est le champ de Dieu où chacun a sa tâche. Voilà encore une autre image. Quand il est dit, l'un plante, l'autre sème, et puis c'est Dieu qui fait croître, etc. Et chacun a sa place, chacun a son rôle. La description qui est faite dans le Cantique des Cantiques sur le jardin est superbement évocatrice et inspiratrice pour l'Église. Et c'est là où je veux en arriver. D'abord, c'est un jardin fermé. Vous l'avez vu, il nous est tué un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Qui rappelle la pensée, finalement, eh bien, de cette relation qu'il peut y avoir entre Salomon et Sunamite, entre Jésus, Christ, et puis également son Église. C'est cette pensée qui est dominante dans tout cela. Il y a comme une forme de séparation. L'Église, ecclésia, hors d'eux, en grec. Voilà, la traduction, c'est ça. Hors de ecclésia, l'Église. Donc, il y a une séparation. Le peuple de Dieu, comme le texte nous le suggère, n'est pas ouvert à tout vent. Il est dans le monde. Nous sommes impliqués dans le monde. Nous avons un rôle à remplir dans le monde. Mais nous ne sommes pas ouverts à tout vent. Paul parlera de vent de doctrine, tout vent d'impression, de mode et de tradition, etc. etc. Donc, ce n'est pas un jardin délabré ou avec des murs délabrés et pleins de brèches qui laissent s'infiltrer de l'extérieur vers l'intérieur ou qui laissent échapper de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a comme une intégrité qui est présentée de cette manière. C'est un lieu où l'on s'unit à l'écart, non pas que l'on méprise le monde autour de nous, au contraire. On ne le méprise pas, mais on s'unit à l'écart pour la joie du propriétaire du champ, le propriétaire du jardin. Et le propriétaire du jardin, eh bien, c'est Christ, c'est Dieu. Parce que nous avons été sanctifiés, nous avons été mis à part. L'Église est un peuple, une nation, c'est une nouvelle patrie où nous sommes mis à part. Non pas pour dire nous sommes les meilleurs, les plus beaux, ça c'est une folie. Mais pour dire que nous avons été, eh bien, choisis, élus, préparés, afin que nous portions du fruit. Ensuite, il nous est dit dans notre texte que le jardin est arrosé de sources et de fontaines fermées et scellées. Ça, c'est étonnant. Voilà. Fontaines fermées et scellées, pourquoi ? Jardin et fontaine d'eau est indissociable. Dans les jardins, il y a toujours de l'eau, autrement, il n'y a rien du tout, c'est un désert. Voilà. Et l'eau est utile à ce moment-là lorsqu'elle est placée là où elle a besoin d'être placée, parce qu'il y a quelque chose à y faire, donc un jardin. L'approvisionnement ne dépend pas de l'extérieur, mais d'une source intarissable de l'intérieur. Les ressources de l'Église, les ressources de chacun d'entre nous, nous ne les cherchons pas à l'extérieur. Nous étions avant à rechercher à l'extérieur ce que nous avions besoin pour exister. Maintenant, pour vivre réellement de cette vie que Dieu nous a donnée, c'est à l'intérieur. Et vous allez voir que ça nous emmène très très loin. Cette source intérieure. Le Nouveau Testament fait jaillir, et ça vous dit quelque chose dans la bouche de Jésus, fait jaillir la source par excellence en envoyant par la venue du Saint-Esprit au sein de l'Église. Et ça commençait à la Pentecôte. Dans Jean, chapitre 7, et je vais vous restituer tout simplement le texte. Il nous est simplement rappelé cette... Jean 7, voilà. Il nous est dit cette parole. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint debout et s'écriait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ouais, celui qui croit en moi, il n'y a rien à faire, c'est de croire. Il n'y a pas à essayer de faire des forages ou d'aller chercher le sourcier pour savoir où on peut trouver de l'eau. Non. Alors, s'il a soif, il croit en moi, eh bien, il nous est dit que les sources couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. L'Écriture le dit. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Puisqu'à un moment donné, si vous lisez le chapitre 2 du livre des Actes, vous verrez qu'ils étaient tous rassemblés ensemble, 120 dans la chambre haute, et à un moment donné, il y a eu un vent comme un souffle impétueux, et le Saint-Esprit est descendu, ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'expliquer. C'est une expérience extraordinaire, expérience charismatique, expérience de la Pentecôte. Voilà. Source scellée, source fermée. Elle est au fond de notre cœur, scellée du Saint-Esprit pour la vie éternelle. C'est une fontaine, nous dit Jésus, c'est une fontaine de vie qu'il faut conserver bien fermée, car il est toujours possible de polluer cette source pure en attristant le Saint-Esprit. Ça, nous le savons. Au point de la réduire ou de réduire cette source au tarissement où l'Esprit s'en va, où l'Esprit disparaît. Toute ouverture sur la chair, eh bien, risque la contamination, parce que le but des Philistins, je prends le terme comme vous le connaissez, ennemi de la vie de l'esprit, eh bien, le but des Philistins, c'est-à-dire le péché, tout ce qu'ils peuvent symboliquement représenter, c'est de boucher nos puits et d'éteindre le Saint-Esprit et de nous amener à ce que notre jardin, notre beau jardin que Dieu a créé dans son amour, eh bien, ne produise que des épines et des ronces. Et c'est peut-être l'état rétrograde, à ce moment-là, d'un être sauvé par le Seigneur qui retourne en arrière et qui finalement, eh bien, alors qu'il était promis, ou promu, à devenir pour lui-même une bénédiction, et une bénédiction pour les autres, nous allons le voir d'ici quelques instants, ne produit rien du tout parce que finalement la source d'eau a été empoussiérée. La source pure a été complètement recouverte. Vous lirez, si vous voulez, l'histoire dans le livre de la Genèse, cette histoire d'Isaac avec les Philistins. C'est pour ça que je fais référence. Alors gardons bien la porte fermée. Gardons bien la porte fermée. Jardin réservé, nous avons dit, jardin arrosé, jardin plancé, c'est-à-dire un jardin habité. C'est sa raison d'être. Un jardin que l'on dit j'ai un jardin mais qui n'a rien dedans, c'est un jardin qui finalement ne sert à rien. Le verset 13 nous dit « Tes plants forment un jardin, une forme de paradis en quelque sorte selon l'original. » Et l'originalité du jardin réside dans la variété et la diversité des essences qui le composent. Un jardin n'est pas fait qu'avec du poireau. Noble légume, s'il en est. Mais un beau jardin, moi je me souviens des jardins de mon enfance, ça remonte à pas mal de temps, mais aujourd'hui c'est des jardins industriels, c'est tous pareils, etc. Mais je me souviens... Il y avait quelque chose de formidable. J'ai encore les odeurs. Vous rendez compte, 50 ans après, 60 ans après, j'ai encore les odeurs. Ah, dites donc, c'était quelque chose. Et c'était bien rangé. Le jardinier, il faisait les choses avec beaucoup d'abnégation. Ça vous rappelle pas un petit peu de... Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a bien encore des gens qui font des beaux jardins. Ah oui. C'était quelque chose de formidable. On le sent encore. Grenadier et troène, nard et safran. Safran, c'est quelque chose, hein. Roseau et cinnamon, myrrhe et aloès. Et vous remarquerez que dans le descriptif qui est fait, à chaque plant, ses particularités. Particularités en taille et en beauté, en parfum et en fécondité, en force et en qualité. Et quelle leçon de tolérance. Dans le jardin de Dieu, quelle leçon de tolérance destinée à l'Église que nous sommes pour vivre dans l'acceptation des différences des autres. J'oserais pas faire une comparaison entre nous. Moi, je suis poireau, moi, je suis pomme de terre, moi, je suis carotte, moi, je suis salade, laitue, tout ce que vous voudrez, batavia. Bon, d'accord, on laisse ça de côté. Ah oui, mais c'est la concurrence que Paul dénonce à un moment donné. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de ceci et cela, etc. Eh bien, le jardin de Dieu, dans ces conditions, ne produira jamais rien. Il va être mangé par les limaces. J'essaie de vous faire peur, mais je vois que ça vous impressionne pas beaucoup. Hein. Non, mais c'est vrai. Tolérance de pouvoir vivre ensemble avec nos différences, c'est bien pour cela qu'il y a ce mélange, ces différentes essences, autant de rachetés dissemblables, plantés et rassemblés dans le jardin multi et pluri du corps de Christ. Et heureusement qu'on se ressemble pas tous. Il y a des blonds, il y a des roux, il y a des bruns, il y a des yeux bleus, enfin bon, je ne veux pas faire l'étalage, mais c'est heureusement que Dieu a voulu que soit que nous soyons l'un Troène, l'autre Cinnamone, et puis l'autre, je ne sais pas, hein, il nous est donné grenadier, nard, safran, etc. Et c'est ce qui fait le bel ensemble, c'est une mosaïque. C'est quelque chose de beau, et Dieu l'a voulu ainsi. Et l'Église, elle est comme ça. Si nous disons l'Église, elle doit être comme ça, uniforme, les uns derrière les autres, régimentée, mais ce ne sera pas l'Église qui vivra, celle-là. Hein. Elle ne vivra pas dans l'amour, elle vivra dans la crainte. Ça, c'est sûr. Parce que justement, cette Église de cette composition est toujours une image fraternelle, parce que l'amour fraternel en est le plus beau fruit. Oui. C'est la fleur parfumée, l'amour fraternel, c'est la fleur parfumée dans le royaume de Dieu. Verset 15, et je vais bientôt terminer, on arrive au bout. Une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban, qu'il nous est dit. Ce même jardin est une source de bénédiction tout alentour. C'est pas pour lui-même, mais tout alentour, vous avez remarqué, il est dépeint comme irriguant d'autres jardins jusqu'au Liban. Il dépasse ses frontières, il y passe la clôture. Il a été fait ce jardin pour qu'il soit en bénédiction aux autres. Tout simplement. Il apporte la vie aux hommes perdus, hors de son enceinte. On est réunis ce soir, mais qu'est-ce que nous avons fait avant de commencer cette étude ? Eh bien, on a commencé à prier pour la ville, on a commencé à prier, on prie pour notre pays, on prie pour les autorités, on prie pour les malheureux, et pas seulement pour notre petit chez-soi. C'est ça. Alors, on apporte la vie à ce monde perdu, hors de son enceinte. Voilà bien la vocation de l'Église. Ça s'appelle évangéliser, tout simplement. Et s'aimer, les graines dépassent le mur d'enceinte du jardin. Et ces graines, c'est des graines de vie, c'est des graines d'espérance, c'est des graines de foi que nous disposons. Et ça s'en va au vent. C'est ce que nous avons dit. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Vous avez rendu témoignage. On a entendu des témoignages ce soir. Et il y aura des résultats. Bien sûr, évangéliser. Veillons à ce que nous ne soyons pas trop attentionnés à l'entretien intérieur de notre jardin, notre petite église que nous aimons bien, notre petit pasteur. Voilà, j'ose le dire, c'est vrai, hein, ou nos petits préférés que nous avons, nos chouchous au milieu de nous. Ben oui, c'est ça. Alors, il y a une attention entre nous, c'est ce qu'on appelle l'amour fraternel, mais ne soyons pas trop focalisés la tête dans le guidon, comme on pourrait dire, excusez-moi l'expression, du jardin, ou finalement, eh bien, d'exclure de l'église toute influence étrangère. Ça, on sait qu'on doit le faire, mais quand il s'agit des hommes, c'est autre chose. Et de finir dans un renfermement sur soi-même à cultiver nos fleurs et nos fruits, à nous, dont nous serons fiers, à garder nos murs, à conserver nos clôtures, et nous mettrons nos clôtures si hautes que plus personne ne pourra y entrer et se désaltérer à la fontaine et à la source. Ce serait bien dommage. Il y a beaucoup mal d'églises qui sont tombées dans ce carcan, qui sont tombés dans ce travers, qui sont tombés dans cette considération, en considérant que c'était une considération spirituelle alors qu'elle ne l'est pas du tout. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur rappelant tout ce que je vous ai enseigné. Dites-leur. Eh oui, ça change les choses. Hein. Il y a des hommes qui ont faim, des hommes qui ont soif et ils ont besoin de se désaltérer dans le jardin qui est le royaume de Dieu et l'Église. Parce qu'il ne faut pas oublier ce que nous sommes, et Jésus nous le rappelle. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Ne l'oubliez pas. On est bien entre nous, hein. C'est sympa, hein. Ça va? Bon, vous viendrez me le dire après si vous n'êtes pas d'accord, mais en tous les cas, c'est vrai, c'est bien, on se connaît, et puis on a fait du chemin ensemble, puis on a écouté le témoignage des uns et des autres. Non, non, faut pas en rester là seulement, hein. On va développer cela, c'est vrai. Mais il faut penser aussi qu'avec nos témoignages, il y a un trésor à donner à tous ceux qui sont autour de nous. Il y a des gens qui ont faim et qui ont soif. Alors, ne confondez pas les rôles. Jésus a dit aux jardiniers que nous sommes, au chapitre 5, verset 1er, « Je suis venu dans mon jardin. » Tsunamide va dire au verset 16 du chapitre 4 « Que mon bien-aimé vienne dans son jardin. » Vous rendez compte ? On est ensemble, Christ, l'Église, Salomon et Tsunamide. Son jardin et mon jardin, on est ensemble. Alors, c'est un appel à ouvrir les vannes pour répandre l'évangile partout. Mais là où les jardiniers que se font quelquefois paresseux, eh bien, ils doivent se mettre tout simplement à l'ouvrage. Et un stimulant puissant et nécessaire. C'est le verset 16 que je lis avec vous. Lève-toi, Aquilon, viens, vent d'autant, soufflez sur mon jardin et que le parfum s'en exhale. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons que le roi appelle le vent du nord et le vent du sud, Aquilon et vent d'autant, à souffler sur le jardin endormi, sur l'église endormie, quand les vents contraires de l'adversité, de la persécution, de toutes sortes de difficultés que nous pouvons avoir en commun parce que nous sommes chrétiens et que nous pouvons pouvoir en propre, c'est-à-dire chacun personnellement, eh bien ce sont des vents qui soufflent sur nous, qui soufflent sur l'église, et à ce moment-là, l'église, quand elle est confrontée avec ce genre de défi, eh bien elle réagit, elle se réveille, elle combat, elle lutte, et l'on voit apparaître, au cours d'un orage, si on peut faire la comparaison, les plus beaux fruits, les plus belles œuvres, l'enracinement, la fidélité, la persévérance, davantage de prières, davantage de louanges, pour ainsi dire, pour que les parfums qui sont dans l'église puissent s'exalter, ou puissent exhaler, pardon, embaume jusqu'au ravissement. C'est toute une histoire, hein, le Cantique des Cantiques, vous vous rendez compte, hein? Il y en a des choses à dire, hein? Ouais. Et à travers l'épreuve, et c'est pourquoi Dieu permet quelquefois, pour pas que nous les jardiniers que nous sommes, nous finissions par dire, eh bien on se met sous notre plus bel arbre et on s'endort tranquillement en attendant le retour de Jésus. Eh bien quelquefois il y a des coups de vent, il y a des orages, il y a des pluies torrentielles qui viennent, et à ce moment-là on se secoue, on se dit, on va pas se laisser faire. Et ça va produire un renouveau, ça va produire un réveil, ça va produire un souffle nouveau de prière, une envie de prier, une envie de louer le Seigneur et de le servir. Viens, vent d'autant, souffle, Seigneur le permet. Je termine la conclusion. Elle revient à l'époux, je le lis. J'entre dans mon jardin, chapitre 5, hein. On va terminer là. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Alors, elle répond, mangez, ami, buvez, enivrez-vous d'amour. Là, on est parti. J'espère que vous allez dormir ce soir. Hein. Je serais vraiment fâché si vous passiez une mauvaise nuit. Hein. Mais bon. Résumé. L'église militante dans le désert, on l'avait vu les fois précédentes. L'église combattante, où il nous était parlé que Tsunamite était accompagnée de 60 hommes forts. Vous vous souvenez la dernière fois? Parce que l'Église est la gardienne des vérités fondamentales de la foi. Et là, nous avons vu cette fois-ci l'Église professante à travers l'histoire du jardin. Elle professe, elle confesse, et elle embaume le monde entier. La scène se clôt en apothéose par la récompense offerte à l'épouse, à la fiancée, à Tsunamite, parce qu'elle est fidèle, et il lui est donné une place qui sera la meilleure, qui lui est réservé au festin des noces de l'agneau. Et là, je vais faire un grand saut dans Apocalypse chapitre 19, écoutez bien. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui était donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, c'est la justice des saints, des chrétiens. Tout est prêt, et pour ceux qui le veulent, il est encore temps d'y entrer dans ce jardin, de rentrer aux noces de l'agneau, et c'est pourquoi, eh bien, Tsunamite va répondre à ce moment-là. Quand nous l'avons lu, quand il est dit, j'entre dans mon jardin, je cueille la myrrhe, je mange mon miel, je bois mon vin, et elle va répondre tout simplement, mangez, amis, buvez, et enivrez-vous d'amour, alors que le Seigneur nous aide ce soir. On verra la suite, hein? On verra encore la suite, mais une chose qui est certaine, c'est que quand on prend par le détail ce livre, et encore je suis passé très très rapidement, parce qu'on aurait pu s'arrêter peut-être sur simplement à chaque fois une dizaine de versets, et il y en avait pour toute une soirée. Je voudrais simplement rappeler, on va terminer dans la prière, mais je voudrais simplement terminer la prochaine étude, donc ça sera la sixième, ça sera le mercredi 17 juillet à 20h, et le thème sera les dormeurs. Oh là, attention, hein. Alors on va prier quelques instants. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que nous croyons, Seigneur, qu'il y a des merveilles, des trésors, qu'il y a des choses extraordinaires, Seigneur, par En effet, en considérant, Seigneur, que ce livre n'est pas seulement un livre de l'Ancien Testament, mais c'est un livre qui nous introduit, qui ouvre la porte à cette belle histoire de l'Évangile, de Jésus-Christ, de notre Sauveur, du Seigneur, et de celui qui est venu pour mourir pour nous, pour son Église, et celui qui revient bientôt pour les noces de l'agneau, où nous ferons partie, où nous serons, Seigneur, à ses côtés, comme fiancés et épouses. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.